J'ai couché avec quelqu'un de plus jeune, de plus beau et surtout de beaucoup plus riche que toi. Hmm?
Quand une fille te parle, tu te fermes la gueule puis t'écoutes.
Un homme avec une femme plus jeune, c'est un cliché. Une femme avec un homme plus jeune, c'est une victoire.
Tu vas me laisser seul ici, là, comme ça. Ton meilleur chum.
Je sais que c'est pas facile pour un homme blanc de 52 ans, cisgenre hétérosexuel, de vivre autant de solitude dans une seule journée, mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, la vie, mon gars, c'est impitoyable.
Et il a eu l'avantage, en plus, de voir que son prénom est demeuré dans celui de son personnage, de Christian Bégin. Il va passer à Christian La Liberté. Salut, Christian.
Bonjour, Paul. Bon matin.
Ben oui, ben magnifique. Et je suis allé voir, évidemment, les extraits des mecs. Et on ressent là la signature de deux réalisateurs géniaux, c'est-à-dire David, celui qui réalise Les Parents notamment, et Ricardo Troggi, bien sûr.
En fait, ouais, Jacques David a écrit la série.
Oui.
Réalisé, oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Et on reconnaît là leur signature. Parle-nous un peu du projet. D'abord, est-ce qu'il est entièrement bouclé avant pandémie? C'est important de noter
il
ça.
Il restait seulement une journée. Quand la pandémie est tombée, une journée de tournage, des scènes qui mettaient en scène Romano et Nathalie. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Là, ça, c'est le matin.
Christian, je vais être obligé de te demander de te tasser peut-être un petit peu parce qu'on a un problème de réception. Peut-être que c'est juste une question de centimètres.
Est-ce que je suis loin, tu sais, je suis à Kamouraska. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant?
Oui, parce que tu viens de te distancer de 2 mètres.
Bon, tu vois. Oui, fait que, oui, il restait juste une journée de tournage, mais le reste avait tout été bouclé, tu sais. Fait que, moi, j'ai tourné, il me restait une scène à tourner avec Béatrice Picard, celle qui incarne magnifiquement ma mère dans la série. Fait que, ouais, c'est ça, effectivement, tout avait été tourné avant la pandémie.
Écoute, je suis rendu au 6e épisode, Christian.
Bonjour, Thérèse.
Bonjour. Je suis rendu au 6e épisode et j'ai tellement aimé ça. J'étais pas certaine avant parce que j'avais entendu, tu sais, on avait entendu des on se disait bon, on va-tu encore revenir avec des hommes dans la cinquantaine qui vont avoir l'air des mononcles, comment ils vont vivre. Écoute, j'ai reconnu des personnages là-dedans que tu sais, on connaît. Il y a des gens qui vont s'identifier moins, évidemment, aux personnages de cette série-là.
Bien sûr.
Mais il y en a qui peuvent mettre des noms dessus.
Mais je pense que oui. Tu sais, Jacques David, il a pas eu la prétention de faire un film sur les cinquantenaires, mais sur 4 gars dans la cinquantaine. Puis effectivement, ces gars-là existent. Ils existent dans la vie, qu'on s'en réjouisse ou pas. Mais au final, je les trouve plutôt attachants dans leur déroute, en fait, parce que c'est beaucoup une série, pas seulement sur des gars de 50 ans, mais c'est sur le vieillissement aussi. C'est quoi vieillir dans un monde où on perd nos repères, tu sais, on est soumis à des changements si rapides et si successifs qu'on n'arrive pas à suivre la POC tout le temps. Puis ces gars-là, ils ont pas tout le temps la POC sur la palette. Fait que, mais il y a des personnages périphériques extraordinaires, dont des femmes.
Ah oui,
comme souvent dans la vie, les femmes sont souvent là. Peut-être qu'elles sont tannées de ça aussi, mais elles sont souvent là pour donner leur juste ou pour remettre les pendules à l'heure. Fait que c'est pas des caves, c'est juste des gars qui comprennent pas trop, qui sont en train de perdre leurs privilèges, qui sont en train de vivre dans un monde qui change, dont les codes changent. Puis des fois, ils s'insurgent contre ça avec raison. Puis des fois, ils le font de façon maladroite. Mais c'est, je crois que c'est une série qui va susciter de bonnes discussions.
Alors, tes trois potes...
C'est une série régressive.
Oui, tes trois potes dans la série. Normand Dano campe le personnage de Martin Lamoureux. Il est en couple depuis toujours avec sa première et unique blonde. Fonctionnaire banlieusard et préfère se taire. C'est ça, c'est la description de son personnage. Préfère se fermer la trappe. Ensuite, Yannick Trusdale, Étienne Lebeau, le personnage, célibataire, gay, en forme, beau, orientation sexuelle qui lui permet souvent d'aborder les relations de ses trois amis hétéros sous un angle différent. C'est vrai.
Absolument. Oui, absolument.
Christian Laliberté.
Il pose souvent un regard critique sur notre façon d'agir avec les femmes, ouais, effectivement.
Et il y a le génial Alexis Martin.
Oui,
traducteur à la pige. À première vue, on dit un homme mou qui ne s'affirme pas et qui fuit les responsabilités. Il a l'air très tendu dans la série aussi.
Oui,
c'est surtout.
Ouais, c'est des hommes en déroute, hein, quand même.
Oui, ouais, tout à fait.
C'est un peu comme la série des hommes de cœur.
Mais moi, j'aimais. Bon, tu sais, quand Alexis Martin débarque chez vous au premier épisode, puis après ça, il s'en suit plein de. Mais moi, j'étais contente de revoir Linda Johnson et Nathalie Mallette dans des rôles de femmes aussi. Des rôles de femmes qui sont extrêmement. Puis il y a aussi celle qui travaille au bar, qui est votre. En fait, qui est ni plus ni moins que votre baromètre. Oui. On dirait que c'est auprès d'elle que vous prenez le pouls de la vie d'aujourd'hui. Et c'est très drôle, ça.
Oui.
J'ai l'impression, Christian, qu'il y a des répliques qui vont circuler sur les réseaux sociaux. Des répliques. On n'a pas fini de voir certaines répliques parce que Jacques David, sa qualité, c'est dans la réplique. Très souvent, tu sais, quand à un moment donné, t'arrives chez toi, ton personnage arrive chez toi, rentre chez toi, les amis sont en train de boire une bouteille de vin, tu te rends compte qu'ils t'ont pris une bouteille dans la cave de 150$. Et là, tu leur cries par la tête une réplique qui est absolument délicieuse parce que les autres, ils te disent « Hein, j'aurais jamais payé 150 pour ça. » Et toi, tu leur dis « Écoute, ça coûte 150$, ça goûte 150$. »
Oui.
C'est absolument délicieux.
Mais Jacques David, c'est un grand dialoguiste puis il a un sens du one-liner qui est du punch qui est vraiment redoutable, en fait. Fait que oui, il y a des répliques, autant chez les gars que chez les filles, d'ailleurs.
Oui.
Moi, Nathalie Mallette, des fois, elle dit des affaires incroyables. Puis Julie aussi, c'est incroyable. Là. Des fois, ce qu'elle me dit quand je suis au bar, puis que j'essaie de faire pitié, puis qu'elle me recadre, ça, c'est savoureux, là, quand même.
Ouais. Mais je ne sais pas comment vous avez tourné ça entre gars. Y a-t-il eu des discussions entre vous sur les textes, sur, par exemple, des... Avez-vous eu des discussions avec l'auteur?
Bien sûr. Mais jamais, Jacques, c'est-à-dire qu'on a eu des discussions sur comment s'assurer que le deuxième degré passe, tu sais, parce que Jacques n'a jamais fait de compromis, je crois, sur son écriture, puis il n'a pas mis de gants blancs parce que je crois qu'il voulait pas, et c'est pas un manque de sensibilité, c'est une liberté artistique qu'il a pris, une licence poétique, presque, à certains égards, mais c'était comme s'il disait, ben, je veux les faire exister tels qu'ils sont, tu sais. Puis, même si des fois, ils disent des choses qui peuvent sembler, à certains égards, préhistoriques, des fois, tu te dis, mon Dieu, puis ça se peut-tu que quelqu'un dise encore ça en 2020? Mais 2020 est une espèce de fourre-tout, hein, qui nous permet de mettre bien les affaires. On dit souvent, ben, ça se fait plus, on est en 2020. Mais il y a beaucoup de choses qui se font encore en 2020 et qui se disent encore en 2020. Heureusement ou malheureusement, mais Jacques a toujours tenu à ne pas édulcorer ces personnages-là à cause d'une injonction de rectitude politique, mais d'une rectitude moralisatrice, en fait, une rectitude morale, en fait.
Et crois-moi, je devine que Jacques David va y aller encore plus mordant s'il y a une deuxième saison, en deuxième saison. Je suis à peu près certain.
Puis je pense que ces gars-là, s'il y a une deuxième saison, puis on le souhaite. Nous autres, on le souhaite, bien sûr, parce que c'est du travail aussi, puis parce qu'on adhère, puis on a embrassé ces personnages-là complètement, mais je pense qu'on va les voir aussi se transformer, puis c'est ça aussi qui est fantastique, c'est de voir que ces hommes-là, qui, vieillissant, ont plus de difficultés à épouser le changement de façon rapide, vont quand même, s'ils veulent vivre en adéquation dans le monde dans lequel ils sont, vont quand même devoir changer, puis évoluer, puis ouvrir, puis... Puis, ouais, c'est ça. Puis, je pense que c'est ça qui s'en vient chez les personnages.
T'as vraiment un beau personnage. Vraiment un beau personnage. Ce sont de beaux personnages, même si on va apprendre à les aimer parfois. Ils vont nous irriter à d'autres moments. Mais c'est une série qui va faire jaser. Ça, c'est très, très clair.
Christian Bégin, comment navigues-tu dans cette pandémie? Là, je parle à l'animateur de télévision.
Oui. Ben là, il me reste quelques tournages. En situation covidienne, il y a du monde à la messe, ça se passe vraiment bien. On s'est bien adapté aux contraintes. Puis finalement, le résultat final à l'écran, il souffre pas de cette nouvelle réalité-là. Nous, on se rend compte que l'absence du public ne nous manque pas. ne nous percute pas. On a 4 invités au lieu de 5. Ça nous donne plus de temps avec chacun des invités. Il y a plus de présence de la chorale aussi, du chœur. Fait que cette formule-là, COVIDienne, je crois, a bonifié l'émission d'Il y a du monde à la messe.
Ouais.
Curieux Bégin, c'est une autre paire de manches. Ouais. Tourner une émission de cuisine dans un contexte de COVID, ça, c'est une autre affaire parce que c'est comme tout est là pour casser le plaisir, tu sais, pour casser le fun. C'est une émission qui tourne autour de la convivialité puis de l'échange spontané dans laquelle il y a une certaine irrévérence aussi. Fait que ça a été dur parce que les journées de tournage sont exigeantes. On a nos élans, freiner, pas toucher ci, pas toucher à ça, pas servir le vin nous-mêmes, tout ça. Mais à l'écran, j'ai visionné parce que j'étais vraiment inquiet. Puis à l'écran, on le sent moins. Puis quand on le sent, on fait des blagues avec, on le récupère le plus possible. Oui,
c'est ça, j'ai remarqué ça. C'est qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas, que vous vous approchez pas ou parce que vous êtes, on le voit pas vraiment. Vous êtes autour d'une table, vous êtes autour d'un comptoir, par exemple. T'sais. Alors, on le voit pas tant que ça. Mais vous avez trouvé le moyen d'en rire.
Oui, c'est ça. Nos journées sont irritantes, là, je dirais, c'est irritant des fois d'être tout le temps bloqué par ces contraintes-là, tout le temps freiné dans nos élans, mais on, tu sais, en même temps, c'est une émission de cuisine, là, c'est pas un documentaire sur les réalités des Premières Nations, fait qu'on trouve un espace où on peut relativiser les choses.
Parce que Thérèse nous disait tout à l'heure, Thérèse, c'est vrai, les chefs ne reviendront pas.
Ben oui.
Et on disait que les émissions de cuisine traditionnelles ou les concours, c'est peut-être l'époque de pandémie, mais ça ne sert pas très bien. On a des restaurateurs qui sont évidemment dans des situations terribles.
Ben,
en ce moment,
on a appris que le Grumman 78,
qui est
Montréal. Ouais. Et a fermé, d'ailleurs, mes pensées à Gaëlle Serre ce matin, vraiment, parce que ça a été une ambassadrice de la restauration à Montréal incroyable. Puis ça, ce n'est que le début, là. Ce n'est que le début. On est au début de la fameuse courbe, là. Il y a une autre courbe, qui est celle des effets collatéraux, là, tu sais, des dommages collatéraux.
Et les petites catastrophes qui vont commencer à tomber, à arriver.
Oui. On va assister à la montée d'une autre courbe qui va obliger des gens à faire d'autres types de deuil, en fait. Ouais. Et ça aussi, c'est une grande tristesse.
Est-ce que tu dois être content d'avoir choisi d'aller vivre à Kamouraska?
Mais tu vois, au moment où je te parle, là, je suis devant le fleuve. Là, il pleut comme vache qui pisse là, ce matin. mais c'est magnifique. T'sais, avec le son de la pluie sur le toit de tôle, il y a certaines couleurs qui s'accrochent encore aux arbres. C'est très beau. Puis, tu sais, en ce moment, Montréal n'a rien à offrir de vraiment intéressant parce qu'on a fait des choix collectif de dire, c'est plus important que les centres d'achat soient ouverts que les théâtres. Fait que, il y a deux choses à faire à Montréal en ce moment, c'est être dans ton appartement ou aller au centre d'achat.
Ouais.
Fait que, je suis très privilégié. Je prends la mesure de mon privilège, mais je suis heureux d'être à Kamouraska parce qu'en ce moment, Montréal, je trouve, est d'une tristesse sans nom. Ouais.
Comme tu dis, a très peu à offrir au moment où on se parle.
Mais tu fais bien d'en parler, Christian, parce qu'à tous les comédiens, tous les artistes de scène à qui on a parlé depuis plusieurs mois, Thérèse va être d'accord, ils nous disent tous à quel point cette absence de pouvoir transmettre leur art devant public leur manque fondamentalement.
Et là, absolument.
On avait rouvert les salles, on permettait 250, et puis pour, évidemment, les raisons sanitaires, on referme d'un coup. C'est une sale période.
Ouais, c'est une très, très dure période pour les arts vivants, mais c'est aussi un indicateur de nos choix de société aussi, parce que moi, je comprends pas, puis là, c'est sûr que j'ai pas un point de vue super objectif là-dessus, mais quand je pense devant, mettons, un centre d'achat, tu sais, quand je prends la 20 pour m'en venir à Kamouraska, puis que je vois que le parking du IKEA est plein comme on était deux jours avant Noël, je me dis, collectivement, on a fait le choix, on a compris, on a choisi collectivement. En fait, c'est comme si on s'était dit, si on ferme les magasins, les gens vont descendre dans la rue, puis ça va être pire que si on ferme les théâtres. T'sais. Et ça, je trouve que ça parle de nous dans un ensemble, sur qu'est-ce qu'on priorise dans une vie collective. Puis ça m'inquiète aussi. Outre le fait que mes confrères et consœurs travaillent pas, je trouve qu'on
Mettons qu'on pourrait prendre ça comme un message. Puis c'est pas le fun.
Oui, C'est ça, ouais. C'est
mais
ça.
Tu vois, la meilleure, Christian, c'est qu'il y a des gens qui se donnent rendez-vous dans les centres commerciaux parce que ils ont le droit.
Ben,
alors, ils
bien
disent, mais à l'intérieur des familles. Alors, ils disent, on va se voir, viens, on va se rencontrer à 3 heures au centre commercial samedi après-midi. Si tu n'es pas complètement folle, là.
Ouais, c'est sûr que c'est plein d'incohérences, tout ça. Puis, je ne voudrais pas être un dirigeant présentement ou une dirigeante, là. Bien sûr que ça doit être assez compliqué de gérer tout ça. Mais je me permets quand même de soulever certaines interrogations par rapport à certains choix qui ont été faits parce que des gens assis dans une salle de théâtre, il y a beaucoup moins de risques de contamination que dans un centre d'achat où on passe généralement un après-midi complet, beaucoup de temps. Mais ça, bon, je vais pas changer le cours des choses. Mais
il y a personne qui crie dans une salle de théâtre. Je parle dans une salle, vraiment une salle, assis à quatre.
Ben non.
Ouais, c'est difficile à comprendre.
Dans
t'sais,
un
j'avoue
musée
que...
non plus, puis dans une bibliothèque non plus, puis tout ça. Tu sais, mais voilà, ça, c'est les choix qu'on a décidé de faire collectivement. Fait que,
Ça regarde moins bien. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans les prochains mois? Est-ce que tu penses que ça va revenir plus rapidement? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Est-ce que tu as un espoir là-dessus?
Non, j'ai pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion à avoir. Tout ce que je pressens, c'est qu'on nous laisse... Si on se fie à notre expérience de la première vague, on nous disait, bon, mais ça va durer... on va fermer, on va confiner pendant, je sais pas, 2 semaines. Puis là, ben, les 2 semaines passées, on confinait. Ça a duré, j'ai passé 77 jours ici, là, à Canoas, confiné. Fait que là, j'ai l'impression qu'on nous prépare tranquillement à ce que ça dure longtemps. Et je crois que ça va durer longtemps. Je crois qu'on n'est pas à veille de retourner au théâtre ou au cinéma, dans les zones rouges, en fait. Je sais pas si on va étendre les zones rouges à l'ensemble du territoire, mais moi je pense qu'on s'apprête à passer un hiver gris, bien qu'il sera peut-être blanc, il sera plutôt gris.
On va jouer dans le cours.
On va jouer dans la cour, oui, on va recevoir. Ouais. On peut même pas recevoir dans le cours. Mais Christian,
non,
gens...
ça c'est quand on en a une cour aussi, tu sais, il y a
ben
plein
oui.
de gens qui n'en ont pas des cours aussi. Ouais.
C'est ça le problème. Ouais. Quand tu es obligé de dire à ta famille, à ta sœur ou à ton beau-frère, viens me rencontrer au centre d'achat. C'est complètement fou. Soyons optimistes, Christian Bégin.
Oui, c'est absolument.
Soyons optimistes.
Sûr, consommons la culture québécoise là où elle se trouve en ce moment. Le moyen d'aller sur plein de sites pour voir des films québécois. Il y a des séries québécoises qui commencent, qui continuent. Fait que consommons la culture québécoise là où elle s'exprime en ce moment, dans cette période.
Bon, on va aller voir les mecs.
Ben, moi, je vous invite à aller voir les mecs.
Ah oui, il va finir ça aujourd'hui, moi.
Moi, je pense qu'il faut aller voir ça puis se faire... faire sa propre idée aussi.
Merci. Absolument. Merci beaucoup, Christian. Vous en avez vu 6 épisodes?
Oui, 6 épisodes.
Ah,
ouais,
vous êtes chanceuse?
Oui, je suis chanceuse. Hein?
Vous allez être capable d'ouvrir le cadenas sur le site?
Non, mais là, c'est disponible.
Je fais des blagues parce qu'il y avait un petit cadenas avant pour dire que la série n'était pas disponible. Christian Bégin, c'est toujours un plaisir. Merci.
C'est un plaisir partagé.
Et nous te retournons dans la pluie d'octobre dans Kamouraska.
Merci à vous deux. Bye. Bonne journée.
Salut.
Au
bonne
revoir.
Journée.
On dit souvent l'épicurien, Christian Bégin.
Lui,
ça y tente encore de faire curieux Bégin, mais il reconnaît évidemment que les circonstances.
C'est-à-dire, il y a du plaisir, il est content de le faire, mais tout le plaisir, tout le monde qui tourne des émissions, puis tu le sais, Paul, t'en as tourné, tout le monde qui tourne des émissions, le plaisir n'est pas le même.
C'est-à-dire
que. Mais c'est comme dans le quotidien des gens.
C'est
le plaisir n'est pas tout à fait le même.
Non, le but, l'objectif de transmettre un message, que ce soit une émission d'affaires publiques, une émission de variété, tout ça, c'est la même chose.
Ouais.
Mais d'abord, premièrement, il n'y a pas de réaction de public en studio. C'est toujours agréable.
Ouais.
Et puis, finalement, au bout du compte, vous vous apercevez que vous vous habituez à tous ces obstacles. Voulez-vous mettre les lunettes? Voulez-vous mettre le masque? Voulez-vous signer ici? Voulez-vous mettre le gel?
On s'habitue, mais ça brise un rythme qu'on avait, auquel on était habitué.
Exact.
Ça brise, ça éloigne des autres, et ça, c'est très dommage.
Rappelez-vous que sur tous les plateaux de tournage, Thérèse, le point de rassemblement, c'était ce qu'on appelait le craft.
Oui.
Le craft étant la petite cantine. Ça en est perdu beaucoup de temps, la petite cantine, mais surtout, on a établi des contacts très chaleureux qui, malheureusement, ont disparu.
Aujourd'hui, on a chacun une petite boîte à lunch.
C'est pas mal ça. Il est 10h25.